Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est un fou. C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal.
J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fake quoi, on fait notre émission de radio et
ouais,
on dit quoi.
Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était dingo là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, on est à l'émission 249. Donc, on va commencer donc par la musique de Roger Lucien. Ensuite, l'interview d'Alain Beaufet.
Alain Buffard.
Alain Buffard, voilà.
On va pas écorcher quand même son nom, sinon il va pas être content.
Ensuite, la musique d'Ahmed.
Mandrin.
Vous
parlerez de Mandrin.
Après, ensuite, la chronique politique de Poutine. Ensuite.
Elle n'est pas de Poutine, mais le sujet de Poutine.
Et il chante aussi Poutine, hein, faut le savoir. Hein.
Il chante aussi Poutine, je voudrais une tartine, non ?
Ensuite, l'actualité, donc, GIPN. Donc, c'est Serge. Ensuite, ma musique, qui passera aussi. Poème de Bruno, météo de Bruno.
De Bruno, l'autre Bruno, parce qu'il y a deux Bruno. Bruno, est-ce que tu veux faire Bruno 1 ou Bruno 2? Qui fait Bruno 1, Bruno 2? Tu t'en fous, toi? Bon, bah écoute.
Bruno sans elle.
Voilà. Ensuite, nous continuerons avec l'information semaine de la santé mentale. Et en 11, ce sera la musique de Brahim. Voilà, donc nous allons commencer avec la musique de Roger Lucien. Roger Lucien.
Donc bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest, du Mali plus précisément. Nous allons écouter un griot, du moins c'est comme ça qu'on l'appelle parfois, le griot du Mali, en la personne de Salif Keïta, qui nous interprète Madran.
Ah!
Donc c'était donc Salif Keita qui nous interprétait Madan et non Madran, je crois que j'ai dit Madran.
Je voulais savoir, Roger Lucien, alors, tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un griot, parce que tu as parlé d'un griot.
En fait, le griot, c'est un conteur. C'est quelqu'un qui chante tout en racontant plusieurs histoires, tout en chantant. Et souvent, il joue un instrument qu'on appelle la kora. Voilà.
Donc le griot, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, je crois, le Mali donc. Mais écoute, Roger Lucien, merci à chaque fois pour tes excellentes musiques. Et aujourd'hui, restons en Afrique, on est bien en Afrique, même s'il y a la neige. Hein, y a pourquoi pas de la neige en Afrique, hein, voilà.
Oui, ça existe, la neige.
Exactement, soyons surréalistes. Nous invitons notre invité aujourd'hui, sur invitation très spéciale. Il s'agit de Monsieur Alain Buffard, présentez-vous.
Bonjour. Merci de m'inviter en tout cas, et merci pour Salif Keita, parce que ça fait une très bonne transition sur la pièce dont je vais parler, qui est Baron Samedi. Baron Samedi, c'est en fait dans le panthéon du vaudou, qui est une grande religion dont on parle jamais, qui est une religion de la danse, hein, en Haïti, qui est un syncrétisme, c'est-à-dire il y a plusieurs influences, il y a à la fois les dieux africains, le catholicisme, enfin, il y a un mixage, hein, pour faire court. Baron Samedi, c'est un des esprits du vaudou qui facilite le voyage de la vie à la mort, hein, et qui est le gardien des cimetières. Mais il a pour particularité d'être représenté par un prêtre, un prêtre vaudou, qui renverse en fait toutes les valeurs et qui est plutôt assez obscène, hein. Il dit tout ce qu'on n'a pas le droit de dire normalement sur les sujets politiques ou au moment des funérailles, évidemment, où tout le monde est très triste. Lui, il renverse ce moment triste en quelque chose qui serait beaucoup plus joyeux. Et Baron Samedi, en fait, dans cette pièce, j'ai réuni un certain nombre de personnes qui viennent du monde entier, et un certain nombre d'Africains d'ailleurs, hein, puisqu'il y a Shlengiwe Lushaba qui est sud-africaine, Nadia Begré qui est ivoirienne, Dorothy Munyanza qui est rwandaise, David Thomas qui est américain mais qui est d'origine jamaïcaine, Will Rawls qui est américain aussi et un français quand même, Olivier Normand et plus, donc qui sont donc des performeurs qui chantent, qui dansent, etc. et qui sont accompagnés par deux musiciens, Sarah Morcia et Seb Martel. Donc voilà, on est juste à côté, ils m'attendent tous d'ailleurs pour continuer la répétition. C'est un projet musical, hein, et en fait la première chose, hein, qui m'a conduit à mener ce projet, c'est la musique de Kurt Weill, dont je suis un grand amoureux, qui repose en tout cas pour la première période sur des textes de Bertolt Brecht qui sont qui sont d'une actualité assez incroyable politiquement aujourd'hui. Enfin, on parle de tout ce qui se passe, enfin de toute la gente politique qui se fout de notre gueule en gros, et c'est, oui, c'est vraiment d'une grande actualité. Et l'autre chose, l'autre pendant du désir de faire cette pièce, c'est un simple constat: en France, en danse contemporaine, il n'y a pas de noirs. Les noirs sont en général dans les clichés qu'on veut bien leur donner, à savoir ils font du hip-hop ou ils font du jazz derrière des chanteurs débiles sur TF1. Et contrairement à d'autres pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et bien ici en France, voilà. Donc c'était un constat un peu en réaction aussi à ce qui se passe après des sorties de Guéant qui parlent d'une certaine supériorité de certaines civilisations sur d'autres, on voit desquelles, et puis des membres du gouvernement qui sont ouvertement racistes et xénophobes et rien ne se passe avec eux. Voilà, c'est un peu une réaction. Souvent je commence un projet parce que je suis en colère contre quelque chose, hein, et donc voilà. Aujourd'hui, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça, c'était le départ. Mais il se trouve qu'effectivement, toutes les personnes qui sont présentes dans ce projet ont tous des histoires complètement différentes, hein, des cultures complètement différentes. Et la question, c'est de comment, à travers une musique qu'eux ne connaissent pas, qui ne leur est pas du tout familière, hein, comment être ensemble et comment gérer des histoires de corps, des histoires de cultures très différentes et faire malgré tout un projet qui est un peu utopique, de dire voilà, en danse on peut arriver à faire un petit bout d'une petite république qui sera vue par pas grand monde, mais en tout cas j'espère que ça pourra être néanmoins exemplaire.
Je distribue la parole donc vas-y, François.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Baron Samedi ? C'est une pièce ? C'est un ensemble chorégraphique ? C'est une performance de chant ? C'est...
Ben, j'essaie de compliquer un peu les trucs, hein. Donc tout ça, c'est tout ça. C'est...
Justement, oui.
On m'appelle chorégraphe. J'arrive à dire que je suis chorégraphe. Hein. Sauf que Schlengaway, par exemple, elle est plutôt comédienne et chanteuse. David a fait partie de très grandes compagnies américaines, comme Trisha Brown, par exemple. Hein. Tout le monde a des capacités, en fait. Et des techniques très différentes, hein. Et en fait ce que j'aime dans ce projet là c'est que tout le monde a accepté, pour ceux qui sont plutôt danseurs, hein, de se balancer sur des choses qu'ils connaissent pas, le chant, et inversement, donc tout le monde est sur des terrains un peu glissants, assez fragiles pour eux, et il en sort des rencontres et des choses fortes émotionnellement, et en fait je me fous un peu des catégories de savoir si c'est de la danse, si c'est de la musique, c'est tout ça, c'est du spectacle, et j'espère qu'on aura l'intelligence de prendre cette proposition là comme un spectacle, et c'est vrai que la danse que je fais, c'est pas la danse jolie qu'on peut voir à l'opéra, c'est d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des personnes, même quand je suis spectateur, c'est de voir des personnes sur un plateau qui ont une histoire, hein, qui ont des rides, hein, qui ont des bourrelets, qui me racontent des trucs, et pas forcément que des jolis mouvements, parce que ça m'emmerde.
Qui parlait de religion tout à l'heure, hein, pour revenir à ce qui a été dit au début, pour que ça soit pertinent, si vous voulez, pertinent. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes croyant en une religion, ou est-ce que vous pensez tout court que la danse est une religion, en fait, enfin, vous êtes, non, vous n'avez pas de religion?
Je suis complètement athée. Mais je crois. Pour la première fois, je travaille avec des personnes qui sont croyantes. Certains vont à l'église, il y a une bouddhiste. Voilà, c'est une chose nouvelle. Je crois en l'homme, hein, mais je pense que le fait religieux, c'est plutôt la mystique a pu permettre. De créer des œuvres littéraires, plastiques, musicales, etc., que j'aime beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup Jean-Sébastien Bach. J'ai beaucoup d'affinités avec les arabesques des mosquées. Je peux avoir vraiment une proximité charnelle avec ces propositions-là qui sont plutôt mystiques, hein. Mais moi-même, je ne suis pas croyant. Et je crois en la danse, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais ça n'est pas pour autant une religion.
Roger Lucien.
Oui, donc Moi, je suis très stupéfait par la composition de votre équipe, des personnes qui composent votre équipe, donc votre projet, je veux dire. Et compte tenu de la difficulté qu'on a aujourd'hui ici en France pour obtenir des visas pour venir en France, refaire des représentations, participer à des concerts, des émissions culturelles, des œuvres culturelles, j'aimerais savoir comment toutes ces personnes ont pu facilement pouvoir avoir des visas, par exemple, pour venir en France, puisqu'ils sont d'un peu partout. Voilà.
Bah, c'est évidemment plus facile pour les Américains, pour les États-Unis. C'est déjà beaucoup plus compliqué pour la Sud-Africaine, parce que pour sortir d'Afrique du Sud, il faut payer énormément d'argent pour avoir son visa déjà sur place, donc c'est nous qui le payons. Donc c'est évidemment, ça élimine un certain nombre de personnes dès le départ. Hein. Et après, en France, vous savez ce qui se passe avec les chercheurs et avec toutes les nouvelles directives qui visent non plus les étrangers illégaux, mais aussi les légaux. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est pas un bras de fer que je fais, mais c'est juste de dire que voilà, il y a on peut réunir, et je pense que la France a eu historiquement un rôle culturel de rassembleur, hein, et le gouvernement actuel fait tout pour affaiblir et détruire tous les liens qu'on peut avoir à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays.
Comment vous est-elle devenue cette passion pour la danse?
Un peu par hasard, je dois dire. Je suis né dans un milieu sportif. Mon père était un sportif de haut niveau et je voulais faire juste l'inverse de ce qu'il faisait. Et surtout pas, en tout cas, être dans un rapport de compétition, de course, etc. J'ai un peu déchanté parce que la danse, ça a été un peu ça à mes débuts. C'est complètement par hasard dans le collège où j'étais, hein, je suis jurassien, et c'était un collège expérimental, hein, et il y a eu un professeur qui a eu la bonne idée d'inviter une danseuse qui a organisé un atelier, et cet atelier, c'est un atelier de massage et un atelier d'improvisation. Autant dire que, je sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans, en bon montagnard que je suis, on se touche pas beaucoup, donc c'était déjà un gros truc pour moi. Et puis, l'improvisation, je savais même pas ce que ça voulait dire, hein, et voilà, il y a eu une espèce de déclic, et cette danseuse m'a fortement encouragé de rentrer dans une école de danse que je n'ai pas fait tout de suite. Car il y avait de la part de mon père, en tout cas moi de ma mère, un peu de résistance à l'idée à ce que je devienne danseur et que je ne finisse pas mes études. Hein. Mais malgré ça, j'en suis là, je suis toujours danseur et chorégraphe.
On a pu prendre connaissance de votre parcours qui fait deux pages, qui est bien long. Mais en dehors de ce parcours qu'on ne va pas retracer ici, puisque vous avez quand même travaillé avec des grands noms, est-ce que vous pensez, par rapport au discours que vous avez sur notamment, vous essayez de créer une unité notamment avec celle de l'Afrique, on le sent bien, est-ce que vous pensez jouer un rôle sur l'évolution de la danse contemporaine? Est-ce que vous êtes ou avez été un précurseur de la danse?
Je me fiche un peu de savoir si je fais des choses nouvelles, hein. Je fais des choses parce que j'ai une nécessité pour les faire, hein. Après je connais un peu l'histoire de la danse, donc je sais si des choses ont été faites ou pas avant moi. Mon rapport à l'Afrique, il est assez lointain. Je connais en guerre que l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Je crois qu'il y a une phrase dans la pièce, je ne sais pas si je l'ai gardée, mais qui concentre bien, je pense, où on en est aujourd'hui. Nadia dit un moment, donc elle est ivoirienne, et elle dit un moment, une très courte phrase, où elle dit « Moi, en tant qu'ivoirienne, je connais l'histoire de la France, mais vous, Français, vous connaissez quoi l'histoire de l'Afrique, hein, on connaît vraiment rien. » Et quand je vois comment il y a de telles résistances, hein, de la part de la République française, tout gouvernement confondu, droite comme gauche, sur notre passé colonial, on n'est pas prêt d'avancer, quoi.
Alors moi, je voulais savoir, vous êtes chorégraphe, donc vous dansez aussi, vous dansez. Et si vous dansez, dans quel, enfin, ou quelle chorégraphie vous concevez au niveau du style? Au niveau du style, c'est hip-hop, un petit peu toutes les influences internationales, ou dans quel style vous vous situez en fait?
Dans cette pièce-là, je ne danse pas. Sur d'autres pièces, oui, mais celle-ci, non. Là, c'est une question très compliquée que vous me posez. Le style, je sais pas. Je travaille vraiment avec les personnes avec qui sont présentes, et elles ont toutes des histoires très différentes. Je suis très loin du hip-hop, que je connais très mal. Et après, évidemment, quand Dorothée, qui est plutôt chanteuse, musicienne, propose, en fait, je travaille à partir d'improvisation, je donne des cas d'improvisation très simples, et selon ce qu'on me répond, parfois des choses auxquelles je ne pense absolument pas, la pièce se construit au fur et à mesure, mais vraiment avec la personnalité des gens. Donc un style, je suis incapable de vous répondre.
Alors on a toujours l'impression, quand on voit de la danse contemporaine, on comprend pas toujours tout, et on a l'impression que c'est très élitiste. Est-ce que pour vous la danse contemporaine est tout public? Ou est-ce qu'elle nécessite d'avoir des bases pour le décodage et pour...
Je pense que n'importe quel bon spectacle, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit un bouquin, que ce soit... Je pense qu'il y a... s'il est bon, il est bon. Et on n'a pas besoin de... Après, il y a plusieurs niveaux de lecture selon ça. Quand je vais voir un spectacle, je sais que mes deux voisins ne vont pas voir la même chose que moi je vois, parce que j'ai une culture, parce que je vois 4 spectacles par semaine depuis 30 ans, et que à force de voir des choses, évidemment j'ai une certaine culture, hein, et que j'aurais vu, même si mon voisin d'à côté voit 4 spectacles par semaine, hein, il ne verra pas les mêmes, donc on n'aura pas non plus. Après, j'invite toujours des amis qui ne savent rien de la danse pour faire un petit test, pour savoir comment ça se passe, si ça raconte des choses ou pas. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire, au moment où moi je fais des pièces, je ne pense pas du tout au public, hein. Je fais d'abord les pièces pour moi, pour les gens avec qui je travaille. Ensuite, deuxième cercle, ça serait plutôt mes amis. Et après, éventuellement, si ça marche, tant mieux. Mais sinon, si je devais penser au moment où je produis au public, je ferais plus rien du tout. Je serais complètement terrorisé et interdit de faire des choses. Alors après, moi je vais pas voir beaucoup de danse contemporaine, parce que la plupart du temps je m'emmerde, et je trouve ça pas abscon, mais c'est souvent, je vais plutôt voir du théâtre ou je vais à des concerts, mais en tout cas c'est pas ce qui me nourrit. Et je comprends qu'on puisse avoir une image de la danse contemporaine comme je pense pas que ce soit élitiste, mais quelque chose qui soit un peu chiant, quoi.
Ce sera ma dernière question. Vous êtes à Roubaix, ville des ballets du Nord, est-ce que vous les connaissez? Et ville aussi où travaille à la tête de ces ballets du Nord Caroline Carlson, une icône.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Caroline Carlson. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, je suis très loin de ce que fait Caroline Carlson, par exemple, hein. Même si ma formation vient de là, on a le même père spirituel qu'est Alvin Nicolaïs, hein. Pour autant, je m'en suis éloigné, elle beaucoup moins. Dans ma très lointaine jeunesse, j'ai travaillé avec elle quand elle était à l'Opéra de Paris. Mais là, ça fait des années que je n'ai pas vu Carlson, donc je ne peux pas en parler.
Bah écoutez, Mohamed.
Moi, j'avais juste une dernière question. Quelles sont vos lectures, votre dernier bouquin que vous avez lu là?
Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. J'ai une journée 10h, 22h pour le travail. et toutes mes lectures sont complètement liées au travail. Et en ce moment, je lis Michael Bakhtin, qui a fait un merveilleux, qui a un livre de référence, qui a fait un merveilleux travail sur l'œuvre de Rabelais, sur le carnavalesque et le burlesque chez Rabelais, et c'est un peu aussi des choses qu'on travaille dans Baron Samedi, essayer de face aux heures et malheurs de la vie d'avoir une pirouette humoristique et burlesque.
Donc sur cette pirouette humoristique, j'espère que vous allez faire un saut de l'ange.
J'espère aussi. Merci en tout cas pour l'invitation.
Et ben, voilà, voilà. Vous passez quand vous voulez. La soupe sera toujours chaude. Voilà. Voilà.
Moi, je voulais vous demander au niveau de la programmation, quand est-ce que va se produire cette pièce
et où?
Donc là, on finit de répéter, on répète en ce moment, donc ici même, à la condition publique. Hein, et après, la première aura lieu le 24-25 avril à Nîmes, où je suis en résidence au théâtre. Et à Lille, elle sera présentée en juin, je crois que c'est le 9-10 ou le 10-11, à l'Opéra de Lille, dans le cadre du Festival d'Attitude Contemporaine.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Attendez, partez pas Alain Buffard, partez pas, je vais vous... Juste, j'en ai pour 2 minutes.
On attend depuis une heure.
Oui, mais 2 minutes. Je voulais savoir justement si vous connaissiez Mandrin.
Non.
Vous connaissez pas Mandrin?
Non.
Mandrin, vous étiez dans le Jura, vous?
Oui, absolument.
Alors Mandrin est né, pas dans le Jura, mais dans l'Isère.
Oui.
Qui est, donc c'est le morceau que je vais proposer, le morceau de musique que je vais proposer, puisque... tout à l'heure, vous évoquiez des personnes qui ont résisté, qui ont... vous parliez de Bertolt Brecht, par exemple, mm-hmm. que tout le monde connaît. Moi, je vous propose d'écouter juste quelques minutes Mandrin, les complaintes de Mandrin. En fait, Mandrin, c'est un jeune brigand, enfin, dénommé comme cela.
Ah, je vois.
Voilà, qui a été exécuté à Valence, contrebandier, qui allait en fait le Robin des Bois de l'époque, période du 18e, avant la Révolution, et qui allait piller, aller chercher l'argent là où il était, chez les riches. Bon.
Pour le donner aux pauvres.
Pour le donner aux pauvres, oui. Il en gardait un peu quand même. Hein.
Oui, mais le problème qui se pose avant de laisser tranquille M. Buffa, c'est que Mandrin, je l'ai vu au cinéma, c'est Jean-Paul Belmondo, vraiment. Ah oui,
oui, parce que il est sorti effectivement en janvier 2012. C'est Les Chants de Mandrin. Oui. Ouais, il vient de sortir.
Oui.
Mais on avait aussi, moi, je me souviens, sur l'ORTF en 72, c'était effectivement le feuilleton télévisé en plusieurs épisodes en noir et blanc sur Mandrin.
Oui.
Mandrin bandit.
Oui. Et deuxièmement, si Mandrin volait aux riches pour nos pauvres. C'est que les pauvres devenaient riches et les riches devenaient pauvres. Mais c'est sans fin, ça.
Mais bon, en tout cas, il existait un homme, je vais pas l'idéaliser, mais assez courageux, avec une douzaine d'hommes pour essayer de rééquilibrer, les choses, quoi, à l'époque. Bon, aujourd'hui, je sais pas comment on les rééquilibre avec la bourse, ou avec, nos spéculateurs qu'on a sur le marché. Mais en tout cas, on n'a pas de Mandrin aujourd'hui. Mais je vous propose d'écouter, Yves Montand qui interprète les complaintes de Mandrin. On a aussi, comment s'appelle-t-elle, Colette Renard qui a interprété les complaintes de Mandrin. Alors, on a eu d'autres personnes qui les ont interprétées. Alors c'est « Nous étions 20 ou 30, brigands dans une bande, tous habillés de blanc, à la mode des, vous m'entendez, tous habillés de blanc, à la mode des marchands. » Mais il y a une suite, alors on y va.
Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode, marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3, vous m'entendez. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je les portais pour vendre à la foire en Hollande. Je les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien, vous m'entendez. Je les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leur longue robe et leur bonnet carré, m'eurent bientôt, vous m'entendez. Et leur bonnet carré, m'eurent bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre. À pendre et étrangler sur la place du, vous m'entendez. À pendre et étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez. Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu.
Les entonnoirs. Nous venons d'écouter Yves Montand qui chantait la chanson de Mondrain. Ensuite, nous allons enchaîner avec...
Je vais parler du sieur Poutine qui a été élu président de la République de toute... Enfin, empereur de toutes les Russies et de toutes les Russies hier, donc dimanche. Poutine, je vais être très rapide, très laconique. C'est nous, on a Sarko, eux, ils ont Poutine. Voilà. Bah, c'est ouais, tout ça. Il s'aime bien, on le voit partout. D'ailleurs, c'est le plus bel homme au monde, Poutine. C'est le plus beau, c'est le plus beau. Il a tout compris. C'est le mâle, le vrai. C'est les femmes l'adulent. C'est parce que justement, c'est pour ça qu'il est tellement aimé par les femmes que les femmes ont porté le pouvoir. Et c'est un grand amour du pouvoir parce qu'il aime. Enfin, c'est moi je. Sauf à différence.